Alors, je dois vous dire que la chronique que vous allez entendre dans les prochaines minutes a été préenregistrée avec Christian, parce que Christian vient de nous informer sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il vient de nous informer, de vous informer qu'il combat un cancer. Un cancer, donc, qui lui a été diagnostiqué en novembre dernier, cancer du côlon. Il a subi plusieurs traitements depuis janvier dernier. Radiothérapie, chimiothérapie. Il a subi une intervention chirurgicale mercredi passé. On lui a retiré la partie du côlon qu'il qualifie d'avariée. Ce sont ses termes. Une intervention de 8 heures. Apparemment, tout s'est bien passé. Alors, il n'en avait pas parlé auparavant. Il ne souhaitait pas que nous en parlions. Là, avec sa permission, je le fais. Je vous en informe. Alors, évidemment, vous vous joignez à moi pour lui souhaiter un prompt rétablissement. On lui envoie nos meilleures énergies pour lui permettre de se remettre, donc, et de vaincre la maladie. Je suis avec toi. On est tous avec toi, mon cher Christian. Maintenant, place à cette chronique préenregistrée avec Christian il y a quelques jours de ça.
Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Quand on parle de Christian Page, c'est toujours les ovnis, les fantômes, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que mon intérêt premier, d'abord et avant tout, ça peut paraître étrange et même morbide, mais ce sont les crimes à caractère occulte. J'ai fait 2 séries pour la télévision sur ce sujet-là. J'ai écrit un ouvrage, Les tueurs de l'occulte. Donc, qu'est-ce que c'est les tueurs de l'occulte? Ce sont des gens qui commettent des crimes, des assassinats, et généralement sous une impulsion ésotérique ou mystique. Hein? J'assassine mon voisin parce que je pense que je suis un vampire, bon, etc. On voit un peu le genre. Oui. Et actuellement, depuis quelques semaines, il y a un documentaire parmi les plus populaires sur le réseau Netflix qui s'intitule Son of Sam, A Descent into the Darkness, donc une descente aux enfers. Et Son of Sam est l'un de ces tueurs qu'on pourrait qualifier de tueur de l'occulte. Je te rappelle les événements parce qu'ils sont quand même très importants. Hein? On est au milieu des années 70 et là, voilà qu'une série de meurtres vont se produire. Hein, ça commence à l'été 1976, ça va se poursuivre jusqu'à l'été 1977. Et on a un individu qui, la nuit, hein, il profite du moment où des amoureux sont dans leur voiture, stationnés le long du trottoir. Il s'approche de leur voiture et fait feu sur eux avec un pistolet de calibre 44.
Ce qui est très puissant. Magnum 44, là, c'est très puissant.
Voilà. Et les victimes ne sont pas toutes mortes, hein, heureusement. Donc, certaines sont, et même s'ils tirent 4 ou 5 coups de feu, certaines sont gravement blessées, d'autres décèdent sur le coup. Donc, tu comprends qu'une panique s'empare de la ville. Qui est ce mystérieux personnage? Mmh. Et au moment de la 4e ou 5e agression, il va laisser sur place une enveloppe qui est destinée à la police. Et là, on retrouve dans ce document une espèce de délire mystique, ésotérique. Et le personnage se décrit, dit « Je suis le fils de Sam ». Et il termine sa lettre en signant simplement « Monsieur Monstre hein, »,« Mr. Monster ». Et on sait qu'il va envoyer une lettre semblable éventuellement à un journaliste du New York Daily News. Et là, il reprend à peu près le même délire mystique. Et visiblement, il lit le Daily News puisqu'il envoie une lettre à ce journal-là. Et cette fois, il termine sa lettre en disant « Je suis Son of Sam » avec une espèce de logo mystique ésotérique. Et là, la ville est prise sous la peur de ce tueur en série. Les gens, les médias, tu comprends, alimentent cette crainte-là. Toutes les victimes de Son of Sam étaient des jeunes femmes qui portaient des cheveux plus ou moins courts, bruns. Donc, toutes les brunettes de New York se font teindre les cheveux. Donc, il y a une espèce de une folie collective qui s'empare. Qui est ce mystérieux Son of Sam? Et toujours dans ce délire mystique, ésotérique. Et voilà qu'à l'été, en août 1977, la police va arrêter un jeune homme dans la vingtaine, un dénommé David Berkowitz. Et ce David Berkowitz va plaider coupable aux accusations. Il dit qu'il est le Son of Sam. Et depuis, il est incarcéré derrière les barreaux. Il est toujours vivant aujourd'hui, hein, soit dit en passant.
Il est toujours vivant?
Il est toujours vivant aujourd'hui.
Est-ce qu'il est toujours incarcéré?
Il est toujours incarcéré.
OK.
Il est il a la possibilité de faire des demandes de libération conditionnelle, mais il faut savoir qu'en prison, ce David Berkowitz de Son of Sam s'est amendé, il a découvert Dieu. Maintenant, son nouveau nom, c'est Son of Hope, hein, le fils de l'espoir. Ah. Et là, ben, il travaille un travail, il fait de l'évangélisation et il a même écrit récemment au comité des libérations conditionnelles en disant, il a refusé, hein, à deux ou trois reprises de se présenter devant la commission en disant qu'il était derrière les barreaux, que c'était son travail d'enseigner la bonne parole aux prisonniers, aux détenus, et ouais. Voilà, et il méritait sa peine.
Okay.
Et là, on arrive à ce documentaire. Dans beaucoup de documentaires, Bernard, et je connais bien l'histoire de Son of Sam parce qu'on l'avait couvert dans les crimes occultes, je suis allé à New York, j'ai rencontré les policiers qui avaient enquêté sur cette histoire-là, j'ai visité les lieux des crimes, là où vivait Berkowitz, tout ça. Dans les documentaires de ce type-là, qui sont souvent très orientés, l'important n'est pas tant ce que l'on dit que ce qu'on ne nous dit pas. Mm-hmm. Et c'est un peu le problème ici. On nous lance dans la quête d'un certain Maury Terry.
Oui.
Maury Terry était un journaliste. Il travaillait d'abord pour la compagnie IBM. Il se déclarait journaliste indépendant. Et il s'est beaucoup intéressé à l'affaire de Son of Sam. Il faut se rappeler le contexte, et ça, Bernard, c'est très important. L'époque, hein, on est dans les années 1970, il y a une espèce d'émancipation de la culture américaine. On a de plus en plus de mères célibataires qui s'occupent de leurs enfants, les femmes vont sur le marché du travail. L'image de cette communauté, de la vie idéalisée américaine, là, l'homme pourvoyeur, la mère à la maison avec les enfants, elle est en train de s'égrener, de s'effriter. Il y a une émancipation à la fois des mœurs, c'est une émancipation sexuelle, une émancipation dans la pensée. Et tu comprends que dans les milieux ultra-religieux, ces changements-là sont pas forcément bien vus. Donc, en chair, on a des prêtres, des pasteurs qui nous disent « qu'est-ce qui se passe en Amérique? C'est le diable! » Donc, on commence à mettre le terreau, ça devient un terreau à une espèce de peur satanique, le diable, il est partout. Et en 1980, un ouvrage intitulé Michelle Remembers, un ouvrage d'ailleurs qui met en scène une Canadienne hein, qui, sous hypnose, a raconté qu'elle avait été manipulée par une secte satanique. Cet ouvrage-là va devenir un ouvrage fort et va déclencher en Amérique ce qu'on appelle la peur satanique. Donc, pendant une quinzaine d'années, il y a une espèce de folie autour de ça. Les satanistes sont partout, puis on le retrouve dans le mouvement QAnon. C'est assez étonnant de voir que QAnon, hein, qui nous dit « oui, le gouvernement américain est infiltré par des pédophiles satanistes oui. », alors que c'est exactement le même discours qu'on retrouvait à la fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis, où on imaginait que ces satanistes étaient partout. Et Maury Terry va se laisser entraîner là-dedans. Il va se laisser entraîner là-dedans à la fois par ses propres visions, mais aussi par ce que déclare David Berkowitz. Berkowitz est un individu, un manipulateur. Devant les policiers, il dit « Je recevais mes ordres du chien de mon voisin, Harry, qui était possédé par 16 sorcières. »
Le chien ou Harry?
Le chien.
Le chien est possédé par 16
sorcières. C'est lui qui donnait des ordres à David Berkowitz. Et là, Berkowitz dit « Je me réunissais avec d'autres individus dans un parc, le Ottermeyer Park à New York, dans le Yonkers. Et là, ils disaient, on faisait des rituels sataniques et c'est comme ça, le diable me parlait et j'allais commettre ces crimes. » Et là, il va prétendre qu'il n'a pas appuyé sur la détente à chaque fois, qu'il était accompagné de d'autres satanistes. Lui aurait commis un ou deux crimes, les autres auraient été commis par d'autres membres de la secte. C'est de la foutaise. Il faut savoir que Berkowitz est un manipulateur. Et en prison, il a donné à peu près une vingtaine d'entrevues. Et à chaque fois, il change son histoire. J'ai tué lui, mais pas lui. Puis ensuite de ça, dans une autre entrevue, il dit « J'ai tué lui, mais pas lui. » Donc, il dit à peu près n'importe quoi. Et Maury Terry se laisse manipuler par ce bonhomme-là. Que Berkowitz ait été un intéressé par l'occultisme et le satanisme, c'est possible. Qu'il se soit réuni avec des amis dans un parc pour faire des rituels païens, sataniques, c'est bien possible. Mais le reste, le problème de Maury Terry, c'est qu'il se laisse entraîner dans cette vague satanique. Et là, il se met à faire toutes sortes d'associations. Oup, un individu est assassiné en Floride, il devait appartenir à une secte satanique, on trouve un lien, sa grand-mère connaissait le frère du cousin du mononcle de Berkowitz. Okay. Et là, on est parti dans une espèce de folie, et malheureusement, dans ce documentaire, on focalise essentiellement sur la vision de Maury Terry. Et on essaie de nous faire passer les policiers de New York un peu comme des imbéciles. C'est un peu comme on a le sentiment qu'on a voulu essayer de donner la parole aux deux parties, mais c'est très inégal. On a un policier qui dit « Non, on est sûr que Berkowitz est l'homme qui a appuyé sur la détente. » Mais t'as 20 personnes qui viennent rajouter « On est convaincu qu'il y avait une secte satanique derrière tout ça. » Tu comprends donc, l'échange n'est pas équitable et il faut se rappeler, Bernard, que durant le procès de Son of Sam, David Berkowitz, Berkowitz a plaidé coupable, ce qui a donc évité que les policiers aient à rendre publiques les informations qu'ils avaient colligées sur David Berkowitz, les preuves qu'ils avaient, les témoignages. Et donc, on n'a pas vu le dossier de la police. Moi, j'ai parlé à quelques policiers, mais je n'ai pas eu accès au dossier de la police. Et tous les policiers qui ont travaillé sur l'affaire de David Berkowitz n'ont pas le moindre doute. Le tueur était David Berkowitz et il a agi seul. Qu'il ait été ou non associé à des gens qui s'intéressaient au satanisme, c'est autre chose. Mais c'est lui l'homme qui appuyait sur la détente.
Et ce qui mais c'est quand même pas rien. T'es en train de descendre en flamme un documentaire présenté sur la très prestigieuse chaîne le réseau Netflix.
Et ce qui est malheureux, on pense complètement sous silence. Et ça, c'est très important. Ça, pour moi, c'est presque un crime de lèse-majesté. Au moment où toute cette histoire-là va se raconter, hein, cette peur satanique se produit aux États-Unis, on multiplie les émissions de radio, les émissions de télé, on essaie de nous faire croire que les satanistes sont partout, ils assassineraient 50 000 bébés par année, ils auraient des ramifications dans toutes les sphères d'activité. L'affaire prend une telle ampleur qu'éventuellement, en 1989, le FBI va se mêler de l'affaire. Hein. On va demander au FBI d'enquêter sur ces supposés crimes sataniques. Qui sont-ils? Quelles sont les ramifications qu'ils ont? Quelle est l'ampleur du phénomène? De 1989 à 1992, un agent spécial du FBI, Kenneth Lanning, va infiltrer les milieux occultes, va enquêter sur les différentes églises qui se disent d'obédience satanique, et éventuellement, en 1993, il publie son rapport. Il n'y a rien là-dedans. Tout ça, c'est de la foutaise. Il existe bien quelques individus assez isolés, 4-5 personnes, qui vont aller dans des cimetières la nuit, boire, assassiner un chien ou un chat, ou faire des rituels sataniques. Mais l'idée que des groupes sataniques structurés existent aux États-Unis avec des ramifications jusque dans le noyau du gouvernement, comme le soutient aujourd'hui QAnon, c'est de la foutaise, ça ne repose sur absolument rien. D'accord. Et ce qui est dommage dans le documentaire de Netflix, à aucun moment on évoque l'enquête menée par le FBI, mais c'est vrai que le document est très, très centré sur les déclarations, les délires presque, de ce Maury Terry qui, au fil des ans, a perdu toute crédibilité.
Nous voilà rassurés. Christian Page a remis les pendules à l'heure. Netflix n'a qu'à bien se tenir. Mon cher Christian, je te remercie. On se retrouve jeudi prochain.
Absolument. Merci.
Salut, mon gars. Lâche
Salut.
Pas. Bye.